Prêtons maintenant notre plus grande attention, car c'est le moment des lectures bibliques, ces lectures dont nous tenterons de tirer dans la prédication ce matin un enseignement. C'est d'abord dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 46, qu'à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, nous lisons ces paroles. Oui, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Dieu. Il n'y a que du néant en comparaison de moi. Dès le début, j'annonce la suite. Dès le passé, ce qui n'est pas encore exécuté. Je dis, mon dessein subsistera et tout ce qui me plaît, je l'exécuterai. J'appelle du levant un oiseau de proie. J'appelle d'une terre éloignée l'homme du dessein que je revendique, que j'ai formulé et que je mènerai à bien, que j'ai formé et que j'exécuterai. Écoutez-moi, cœurs indomptables, vous qui restez éloignés de la justice. Ma justice, je la rends proche, elle n'est plus éloignée. Et mon salut ne sera plus retardé. Je donnerai en Sion le salut, je donnerai à Israël ma splendeur. Et dans l'évangile de Jean, ces quelques versets au premier chapitre, versets 1 à 4, ainsi que le verset 14, au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui, rien de ce qui fut ne fut sans lui, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Enfin, dans l'évangile de Luc, nous rappellerons ce matin le cantique du vieillard Siméon. Or, il y avait à Jérusalem, évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras. Il le bénit, il bénit Dieu en ces termes. Maintenant, maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de l'enfant était étonné de ce que l'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » » Seigneur, ta parole est vérité. Rends-nous saints par cette vérité. Chantons donc maintenant le cantique de Siméon dans le recueil Louanges et prières au numéro 89, les deux strophes. Esprit Saint, qui a reposé sur le prophète Ésaïe. Oui, c'est moi qui suis Dieu à Israël, je donnerai ma splendeur. Qui a reposé sur Jean, l'évangéliste. Le Verbe a été fait chair et nous avons vu sa gloire. Sur Siméon le vieillard, maintenant en paix, tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. Esprit Saint, repose maintenant sur nous, pour que nous puissions partager dans la joie, l'attention et la paix, le festin de ta parole. Cette parole, nous allons essayer maintenant, non pas de nous l'approprier parce que c'est impossible, mais d'en avoir quelques bribes et surtout de savoir les partager. Fort de ces lectures que nous venons d'écouter, il nous vient, bien entendu, à l'idée car c'est très commun, et bien que Dieu, c'est l'unique, c'est le suprême. Et nous associons, bien entendu, toutes ces valeurs qui nous échappent à une immuabilité de l'être de Dieu. Alors nous nous demandons comment donc entrer dans une relation avec ce Dieu qui ne connaît ni mouvement, ni variation. Se portirait de Dieu, bien qu'affirmé dans l'Écriture, fortement et hautement, coïncide-t-il tout à fait avec le Dieu biblique? Oui, dans un sens, mais pas du tout dans un autre. Et je dirais même que c'est le non qui l'emporte très largement sur le oui. Oui, il correspond, car l'homme ne peut absolument pas accéder par ses propres moyens, ni par aucun intermédiaire, et c'est très important, car la réforme s'est battue pour faire comprendre combien aucun intermédiaire ne pouvait nous mettre en face de Dieu, sinon le Christ. Si l'homme parvenait, ce qui est exclu, mais qui est seulement une hypothèse, à être face à face avec Dieu, l'Écriture nous dit bien qu'il y laisserait sa vie. Car quand le souffle de l'Éternel passe sur l'homme, l'homme est mort. Mais l'étonnant, c'est que les écrits bibliques, disons mieux les auteurs bibliques, se donnent, sans faire une entorse à ce qui vient d'être affirmé, se donne une extraordinaire liberté, la liberté de décrire ce même Dieu comme un Dieu qui se dérange, comme un Dieu qui se déplace et qui dérange le monde. C'est d'ailleurs l'affaire essentielle de la Bible, de tous ces textes tellement divers, souvent tellement étonnants. Si l'on enlevait de ce recueil les textes où Dieu intervient dans la vie des hommes, il ne resterait plus grand-chose des Écritures. Ainsi, le paysage qu'on croyait uniforme, d'une éternité immuable et invariable, se troue. Et comme pour un spectacle qui va se jouer sur la scène du monde, le rideau se lève sur une histoire, et même sur beaucoup d'histoires, des histoires particulières. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Des histoires qui auraient pu ne pas avoir lieu, des histoires de famille, des histoires personnelles, d'hommes et de femmes, des histoires de peuples, des histoires de rivalité, des histoires d'amour aussi, des histoires d'enfants, des histoires de femmes enceintes, des histoires de vierges, pourquoi pas aussi, tant d'histoires. Et puis, ces histoires tournent toutes, les unes, les autres, et on peut s'apercevoir que va s'imposer à travers leur diversité et souvent leur extraordinaire banalité, que s'impose une universelle vérité. Commençons par cette réflexion. C'est que le Dieu biblique est à l'œuvre. C'est que le Dieu biblique travail. Depuis toujours, on ne sait pas. Pour toujours, on ne sait pas. Il travaille parce qu'il est vivant, parce qu'il se rit des idoles qui n'ont ni bras ni jambes, qui ne peuvent rien pour les hommes. Il interdit aux hommes de s'en fabriquer, parce que l'homme, c'est d'abord un vivant et qu'il est au milieu des vivants. C'est un monde qui bouge, c'est un monde qui remue notre monde. Mais pas n'importe comment, c'est d'un monde d'une extraordinaire précision. C'est un monde qu'encore aujourd'hui, les hommes, les femmes les plus savants ne comprennent toujours au fond rien. Parce que c'est un monde de vie et que la vie, nous ne pouvons que l'éprouver, mais jamais la connaître. Un monde vibrant, c'est aussi un monde qui connaît la mort, parce qu'il connaît la naissance. C'est seulement dans cette vie palpitante que Dieu peut s'approcher de l'homme, alors sans le détruire. À travers cet écran qu'est la vie, et qui devient alors le véhicule de son amour. Et cela, nous l'avons déjà souligné en introduction, ça ne s'explique pas. Ça passe à travers des histoires, à travers un déroulement d'événements inexpliqués, inexplicables, et d'autant plus inexplicables qu'il s'agit bien de ce même Dieu tout-puissant dont la pensée est insondable. Dieu reste ainsi l'absolu, le tout autre, mais c'est aussi en lui que palpite son œuvre au risque de la mort. Et on n'aura jamais fini de comprendre l'histoire de l'homme avec Dieu. Pourquoi il passe par tant de contingences? Pourquoi nos vies sont-elles parfois si bizarres, à la fois uniques et banales? Pourquoi tant de situations étranges? Pourquoi y avait-il au milieu du jardin, y a-t-il toujours un arbre dont il ne faut pas manger le fruit? Nous n'allons pas rester sur ces interrogations. Non pas qu'il y ait une réponse à donner, une réponse attendue, qui refermerait l'histoire et qui éteindrait la vie, mais nous voulons nous arrêter maintenant sur la manière dont Dieu est à l'œuvre dans le monde. Il est le Dieu des commencements. Il est le Dieu de tous les commencements, le merveilleux, l'irremplaçable, l'unique prologue de Jean le dit d'une façon admirable. Car Dieu, il est d'abord « je parle » avant d'être « je suis ». Et davantage que d'imaginer un Dieu créateur qui a commencé à un certain moment, qui a peut-être fini à un autre, dans un commencement idéal, abstrait, formel, dogmatique, imposé. Il est le Dieu qui est le Dieu de tout ce qui est initial, de tout ce qui commence toujours à être, de ce qui coule comme coule une source. Un début marqué, un début tranché, ça ne veut rien dire. C'est une borne peut-être facile et qui pourrait contenter des esprits qui veulent se reposer. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu va et il vient. Le début, les débuts, les commencements, ils peuvent autant aller en avant que repartir en arrière pour refaire le temps. Et à cet égard, c'est curieux de voir comment un certain nombre d'expressions bibliques jouent avec le temps. Il y a des « dès le commencement » ou « les commencements ». Il y a des « au commencement » ou « dans le commencement ». Ou bien on parle des premiers événements, ou bien on parle de ceux d'autrefois. On se réfère à des tas de choses. Il y a donc des mouvements initiaux parce qu'il y a la vie. La vie, c'est quelque chose d'incessamment redonné. La vie, l'image la plus parfaite qui en est donnée, ce sont les battements du cœur qui doivent toujours repartir. La vie, c'est toujours un recommencer. Elle est toujours à refaire, on l'a toujours ratée, il faut toujours y revenir. Jésus le savait si bien qu'il remettait des estropiés debout, qu'il refaisait voir à des gens qui n'y voyaient plus. Il faisait recommencer, il faisait repartir. La vie, elle est cinétique. Le monde que Dieu secrète, c'est comme un film. Et pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait mort. Pour nous, nous pensons automatiquement que la mort vient après la naissance. Mais c'est la naissance qui vient après la mort. Sinon, tout s'arrêterait. Toutes les naissances sont des victoires sur la mort, sont des reprises de vie. On survit toujours à quelque chose qui est fini. On a toujours un passé qu'on dépasse, qu'on abolit. Ainsi va aussi la foi, comme le dépassement du doute, de la négation. Toute prise de conscience, toute pensée est une victoire sur l'inexistant. La foi, c'est quelque chose qui se déclenche. Dieu travaille en nous comme par à-coups, comme par saccades. La vie, c'est chaotique. La vie, on ne sait d'ailleurs pas ce qu'elle va être dans une minute, dans une heure, dans un jour, dans un an. Et c'est pourquoi elle nous apparaît sans explication. Même, elle peut être absurde aux yeux de certains. Mais elle est là. Elle est là, comme le Dieu qui parle est là, dès tous les commencements, dès toutes les origines et dans tous les sens du temps. Tous ces flux historiques que sont nos vies sont autant d'occasions de décrypter les gestes de Dieu, soit dans sa propre histoire, soit dans le geste absolu de Dieu, le geste du salut. Je ferai voir à Israël ma splendeur. Le Verbe a été fait chair. Mes yeux ont vu ton salut. Ainsi, la vie n'apparaît plus comme quelque chose de neutre qui est réglé par la nature, mais comme un lieu d'irruption, comme un spectacle qui a lieu pour moi d'une façon unique et pour le monde en même temps. Alors, posons-nous encore une question. Celle-là nous excite. Y a-t-il une fin à tous ces commencements, à tous ces recommencements, à tous ces mouvements? Puisque c'est une histoire, elle a bien une fin, et surtout une bonne. C'est le problème de cette partie de la théologie, vous l'avez souvent entendu dans les prédications des uns et des autres, et qu'on nomme l'eschatologie, c'est-à-dire cette science qui se veut science des choses dernières. C'est la grosse, c'est la grande question. Eh bien, retournons au personnage du vieillard Siméon. Il était en éveil par une espérance qui avait été mise en lui, par une promesse. Et cette promesse, il l'a vue. Il a eu la certitude que tout était arrivé. Pour lui, ça a été l'eschatologie suprême. Et cette révélation a coïncidé avec maintenant la mort qu'il avait totalement dédramatisée. Puisque tout était réalisé, la mort même ne pouvait plus rien sur la paix qui l'avait envahi. C'était d'une certaine manière, peut-être, le premier ressuscité de l'Évangile. Et l'accomplissement n'était pas lié à son petit personnage. Il avait vu pour le monde, il avait vu pour tout ce qui allait se passer. Il avait vu pour des milliards et des milliards d'hommes et de femmes à venir. Il distançait sa propre existence de l'événement qu'il avait salué, qui le comblait tellement. Alors plus rien ne pouvait lui arriver. Il embarquait pour l'espérance. Qu'est-ce donc l'espérance ? Ce n'est plus le travail qui se fait chaque jour. Ce ne sont plus tous ces commencements et ces recommencements qui agite le monde des vivants. C'est ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, mais que Dieu a fait monter au cœur de l'homme. Comme si Dieu éclairait un espace qu'on ne connaissait pas. Un espace porteur d'une nouveauté qui donne la paix, qui ferme toutes les bouches, qui fait taire tout ce qui respire, qui fait voir le salut entier, dévoilé. Il ne s'agit pas d'un enchantement du monde, il ne s'agit pas d'une fête en perspective, d'une joyeuse issue. Il s'agit d'avoir seulement percé l'écorce trompeuse du monde, de tous ses biens, et d'avoir perçu que c'est dans un signe minuscule, un petit enfant qui peut-être pleure, qui a peut-être faim, qui a froid, que peut être reçu pour le monde un cadeau qui ne lui avait encore jamais été fait. C'est-à-dire que le monde peut se retourner, peut se renverser, que l'eschatologie est déjà arrivée, que la fin est réalisée et que la mort n'a plus de pouvoir et que la paix l'a remplacée. Ainsi, c'est dans ce signe très inapparent que perce une signification disproportionnée avec sa dimension. Ainsi naît l'espérance. Seulement, il faut concevoir la gloire que Dieu annonce comme une gloire inversée, non pas comme l'écrasement des ennemis dont Israël a tant rêvé et la réinstauration du royaume de David, mais une nouvelle humanité qui aura, comme Marie, l'âme transpercée d'un glaive pour le jugement du monde et qui aura à faire, à son tour, la longue marche chaotique de la foi, qui devra découvrir le chemin pierreux pour trouver la porte étroite qui va à la vie. Il faut toujours essayer d'éviter de considérer les textes bibliques comme aboutissant à une histoire bien ficelée, une histoire à sens unique, une histoire qu'on pourrait maintenant maîtriser et enseigner telle qu'elle pourrait être. L'écriture, je voudrais faire une comparaison un peu étonnante, je la vois comme une immense, une formidable exposition de peinture où se retrouvent à travers des tableaux innombrables de factures très diverses, peintes à des époques très différentes et sous des cieux très différents, une exposition déroutante de tant d'œuvres, mais qui toutes ensemble expriment à leur manière une même réalité, une irrésistible, une indiscutable émotion artistique. Ce n'est qu'une pâle image de ce qu'est l'écriture, ou plutôt les écritures, à travers leur langage varié, à travers tant de récits étonnants, déroutants. Devant tous ces textes, nous sommes saisis comme devant une exposition. Nous sommes comme pris à la gorge par une évidence qui alors nous arrête, nous interroge et nous décide pour l'espérance. Cette évidence, c'est que nos yeux ont vu le salut et que maintenant, comme Siméon, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre jeunesse ou notre vieillesse, maintenant, nous pouvons aller en paix. Amen.